Les cours du Collège de France, physique mésoscopique, Michel Dévoret.
Merci de participer à ce dernier cours. En principe, aujourd'hui, on devrait pouvoir avoir le résultat de l'investissement qu'on a fait pendant les 5 premiers cours. Je réalise que ce formalisme des stabilisateurs est quand même assez complexe. Ça m'a demandé un certain effort de digestion, mais normalement aujourd'hui, on devrait pouvoir récolter toute la puissance de ce point de vue sur la physique quantique. Donc, dans ce dernier cours, je vais aborder la question de la correction quantique des erreurs, qui, de mon point de vue, est vraiment une invention miraculeuse. On peut la mettre un peu en rapport avec ce triomphe de la mécanique du XVIIIe siècle qui a mis au point l'échappement à ancre. Une invention extrêmement astucieuse qu'on attribue en général à Huygens, dans laquelle on pouvait, pour la première fois, entretenir le mouvement d'un pendule sans affecter sa période. C'est-à-dire qu'on pouvait vraiment, c'était le départ, en quelque sorte, de la mesure moderne du temps. Comme vous le savez, c'était à l'époque très lié au problème de la mesure des longitudes, qui était absolument crucial pour la navigation maritime. Donc on avait d'un côté un problème mécanique fondamental et puis des applications très importantes. Et la correction des erreurs, quantique des erreurs est, à mon avis, une réalisation à la fois théorique et pratique considérable pour le traitement quantique de l'information. Et donc ce dernier cours, ça va être une introduction au principe de cette correction quantique des erreurs. Je vais essayer de ne pas aller trop dans les détails, mais de vous donner un peu ce principe, l'essence de ce principe. Après le cours, nous avons le plaisir de recevoir Vladimir Manoucharian, qui va nous parler d'un nouveau qubit, le fluxonium, dans lequel on pourra implémenter, avec lequel on espère implémenter un réseau de qubits. Et donc ce fluxonium est très relié à ces protocoles de correction d'erreurs. Voilà. Donc pour expliquer ce principe de la correction d'erreurs, je vais tout d'abord vous parler de la correction classique des erreurs, car comme vous allez le voir, cette correction des erreurs pour un qubit, en fait, s'inspire beaucoup de ce qui se passe pour la correction classique des erreurs. À ceci près que lorsqu'on corrige une erreur classiquement, on mesure l'état. Il y a une mesure qui se fait de l'état. Et là, évidemment, en mécanique quantique, il faut faire très attention à ce qui se passe pendant la mesure, puisque la mesure a un caractère destructif. Donc, corriger des erreurs quand on effectue des opérations destructrices, ça paraît contradictoire. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'au départ, cette correction quantique des erreurs était jugée impossible. Mais finalement, la mécanique quantique est beaucoup plus tolérante qu'on peut le penser. Il faut simplement organiser la mesure de manière concertée. Et on peut tout à fait, on peut tout à fait éliminer ce problème du caractère destructeur de la mesure. Alors d'abord, parlons des erreurs. Alors j'ai choisi pour commencer une erreur très simple, où un bit classique simplement passe de l'état 0 à l'état 1 et vice-versa. Et la probabilité pour passer de l'état 0 à l'état 1 et l'inverse sont égales. Donc c'est ce qu'on appelle un bit flip. Le bit se retourne et ce processus ne dépend pas de l'état initial du bit. Ça va être important au départ. Donc c'est un certain type d'erreur. Si on imagine que ce bit classique résulte d'un système physique avec deux puits équivalents, cette erreur consiste simplement au passage de la particule représentant le bit d'un puits à l'autre. Et ce qui est impliqué ici, c'est simplement la hauteur de la barrière et la température. Et les deux puits étant équivalents, la probabilité de passer d'un puits à l'autre est indépendante de la nature, du puits dans lequel on part. Du fait de cette loi d'Arrhenius ici, on peut avoir, en choisissant cette barrière suffisamment haute, on peut avoir un taux d'erreur extrêmement faible. Et je vous rappelle que dans un ordinateur comme un ordinateur portable, le taux d'erreur par bit, c'est mieux que 10-10 pendant une heure. Donc les bits sont, leur construction même, par le caractère dissipatif de la dynamique et la barrière ici, sont déjà très très bien protégés au niveau individuel contre les erreurs. Et en fait, bien qu'un microprocesseur ait des circuits de correction d'erreurs, ils sont rarement employés par les constructeurs de cartes mères parce que c'est trop compliqué. Finalement, le système opératif, en gros, fait plus d'erreurs que les bits individuels. Donc, la plupart de vos ordinateurs portables se dispensent en fait de corriger les erreurs. Ça n'est que dans les serveurs, dans des applications très spécialisées, on a vraiment besoin de ne faire aucune erreur, que l'algorithme que je vais vous présenter est en fait utilisé. Alors, comment corriger ces erreurs résiduelles? Bien, l'idée, c'est la redondance, tout simplement. On va remplacer un point mémoire par 3. Et un 0 sera représenté par 3 0 et un 1 sera représenté par 3 1. C'est très simple. On augmente le nombre. Avec 3 bits physiques, on va faire un bit logique. Si on fait la liste des erreurs possibles à un bit, eh bien, on tombe sur ces états. Ici, ça, c'est les états qui sont voisins du 0, et ça, c'est les états qui sont voisins du 1. Là, on va négliger la possibilité qu'il y ait deux erreurs à la fois. C'est extrêmement improbable, puisque si une erreur se fait avec une probabilité epsilon par unité de temps, deux erreurs vont se faire avec une probabilité epsilon carré. Ouais, 10-10 au carré, c'est 10-20. Donc, on oublie ces erreurs qui se feraient simultanément. Donc, comment corrige-t-on ces erreurs? C'est très simple. On va faire intervenir deux bits auxiliaires qui vont mesurer la parité des deux premiers bits et des deux secondes. Donc E, ça va être la parité du bit B2 et B1. Donc on fait l'addition modulo 2 de ces deux bits, et F, c'est la parité de ces deux derniers bits. À partir de ces deux bits de parité, on va pouvoir être capable de corriger par un processus de feedback, de rétroaction. À partir de ces deux nombres, qui vont fournir un tableau donc, à 4 entrées, on va prendre une décision. Donc, si ces deux nombres E et F sont 0, la parité est respectée, il ne faudra rien faire. Cela indique que le bit n'a pas changé d'état. Mais si l'un, au moins, de ces deux nombres binaires sont égaux à 1, il faut faire quelque chose, et ce quelque chose est donné ici dans cette table. Donc, il y aura un signal qui doit aller de cette boîte qui fait ses calculs, ici, de décision, et qui va corriger, qui va inverser un des bits. Donc, vous voyez, c'est assez simple. On a deux bits de contrôle. Ça fait 4 états en tout. Et ça marche très bien, puisque un de ces états correspond au cas où il n'y a aucune erreur. et les trois autres cas correspondent à une erreur sur chacun des bits. Voilà l'idée. Ça marche parce que finalement, on a remplacé l'espace des deux états du bit, 0 et 1, par un espace plus vaste dans lequel il y a une dynamique attractive. Ces trois états ici, avec une erreur, sont dans le bassin d'attraction du 0. Et ce processus de feedback établi vous ramène, si vous êtes dans un de ces trois états, vous êtes ramené ici. Par contre, si vous êtes dans un de ces trois états-là, vous êtes ramené à l'autre pôle de l'espace. Et donc, vous voyez que la combinaison de ces deux bassins et de cette dynamique attractive permet la correction d'erreur. En quelque sorte, on peut dire que dans cet espace plus vaste, on a reproduit la même friction qu'il y avait dans l'espace des continus des états d'un seul bit. Voilà, c'est un principe très simple et on va essayer d'étendre ce principe au qubit. Alors pour étendre ce principe, il faut introduire des notions supplémentaires. Parce que cet espace à 3 bits ne va pas suffire, donc on va introduire d'une manière générale une contrainte, cette contrainte de la parité. On va l'étendre à plusieurs bits. Et là, on a supposé qu'on a n plus 1 bit, donc qui forme un vecteur. Et on va imposer une contrainte, on va imposer le fait que la somme modulo 2 de ces bits fasse 0. La somme, on va l'appeler E. E, c'est en quelque sorte, ça va être le signal d'erreur. Et dans l'état normal de fonctionnement, ce E doit être mis à 0. On va imposer, en fait, on va faire en sorte qu'il y ait un circuit qui maintienne ce E dans la valeur 0. Ce E va nous permettre de détecter s'il y a une erreur. En effet, si on détecte le passage de E égale 0 à E égale 1, on saura qu'une erreur s'est produite. Mais évidemment, vous voyez qu'en général, si on a N bits comme ça et on surveille E, on saura qu'une erreur s'est produite, mais on ne saura pas où. Donc, vous voyez qu'il va y avoir... Il va falloir introduire plusieurs de ces contraintes, plusieurs de ces bits, pour être capable de non seulement détecter les erreurs, mais aussi de savoir quel bit il faut corriger. Et le critère est assez simple. Le nombre de ces bits d'erreur, si vous élevez 2 à la puissance de ce nombre de bits d'erreur, vous avez le nombre de configurations d'erreurs possibles. Et ce nombre de configurations des signaux d'erreur possibles doit être évidemment supérieur ou égal au nombre de bits à corriger plus 1, puisque vous pourriez ne pas avoir fait d'erreur. Vous voyez, c'est un critère assez simple, et vous voyez que si vous augmentez le nombre de bits d'erreur lorsque vous augmentez le nombre de bits, vous allez pouvoir corriger les erreurs. Vous voyez même que c'est assez assez favorable, puisque le nombre de bits d'erreur que vous consacrez à la correction croît comme le log du nombre de bits à corriger. Et je vais vous montrer un exemple qui va nous servir par la suite. Un exemple où il va y avoir 7 bits, et vous allez voir pourquoi je les ai disposés dans ce réseau. Et ces 7 bits vont être corrigés par 3 bits d'erreur. Donc il va y avoir 3 contraintes que je vais imposer sur ces 7 bits. 7 bits moins 3 contraintes, ça vous donnera 4 bits restants. Donc ce petit réseau ici va finalement à la fin encoder 4 bits seulement, mais ils seront bien sûr protégés. Alors ça marche de la façon suivante, ces 3 bits d'erreur ici vont surveiller ce qui se passe sur ces 3 plaquettes ici. Vous voyez, ces 7 bits dessinent une espèce de cube dont vous voyez 3 faces. Voilà. Et au centre de ces faces, vous avez disposé ces fameux bits qui surveillent les erreurs. Et chacun de ces bits d'erreur, E0, E1 et E2, mesure la parité de ces quatre bits ici. Les équations sont très simples. Hein. Le bit 0 mesure la somme modulo 2 de ces quatre bits. Le bit 1, la somme modulo 2 de ces quatre-là. Et finalement, vous avez pour le bit restant, E2, la somme modulo 2 de la face du bas. On peut écrire cette contrainte sous forme matricielle en introduisant cette matrice ici qui n'est rien d'autre finalement que la matrice qui décrit les relations de voisinage sur cette... ça décrit finalement ce circuit ici. Avec l'indice I ici qui est l'indice correspondant au bit et l'indice J qui correspond aux erreurs. Donc dès qu'une erreur est commise, dès qu'il y a un de ces sept bits qui s'inverse, eh bien cette relation matricielle ici, le second membre ne fait plus zéro. Il y a un au moins de ces contraintes qui sont violées. Il peut y en avoir deux ou trois. Par exemple, vous voyez si ce bit central se retourne. Ici, eh bien, ces trois contraintes seront violées simultanément. Vous aurez 1, 1, 1 ici dans le second membre. Donc, il y a suffisamment d'informations dans ces signaux d'erreur ici pour reconstituer l'état d'origine. Et l'état d'origine, eh bien, se reconstitue par cette formule. On verra plus tard à quoi elle correspond. Mais vous voyez que dans cette formule qui consiste à modifier chacun des bits suivant le signal d'erreur, eh bien c'est la matrice A qui intervient encore. Cette matrice A détecte les erreurs mais permet de les corriger. Plus exactement, ce n'est pas exactement la matrice A qui permet de corriger les erreurs, c'est la matrice A bar qui s'obtient en inversant les 0 et les 1. Alors cette inversion de la matrice A, ça doit vous rappeler quelque chose. Quand vous avez un circuit à contre-réaction, en fait, vous réinjectez le signal de sortie à l'entrée, mais avec un signe moins. Et en fait, ce signe moins, on le retrouve ici dans le fait que vous prenez l'opposé de la matrice. Alors c'est quand même un peu compliqué puisque pour implémenter cette formule, il faut quand même trois circuits A et puis un certain nombre de portes. Mais le résultat est très bénéfique. Vous avez protégé finalement 4 bits effectifs contre les erreurs. Alors quand on voit un principe de correction comme ceci, qu'on l'applique au qubit, on se dit, bon, c'est quand même un peu compliqué, est-ce qu'on est obligé vraiment de faire ça? La réponse est oui, absolument, parce que contrairement aux bits classiques qui sont déjà corrigés physiquement au niveau individuel par la friction est interdite pour les qubits, et donc il n'y a pas de possibilité d'auto-correction des erreurs. Donc quoi qu'on fasse, on est obligé de passer par ce genre de circuit. Donc dans ce que j'ai présenté, il y a une mesure. On semblait mesurer la valeur de chaque bit pour faire la parité, mesurer la parité. Et en mécanique quantique, comme je l'ai dit au début, la mesure détruit l'état. Donc là, comment va-t-on faire? Et puis il y a ce point là qui est aussi peu effectivement dérangé. C'est que dans un système classique, disons digital, les erreurs sont discrètes. Le bit s'inverse ou ne s'inverse pas. Mais finalement, un qubit est un objet mixte. C'est un objet qui peut être conçu de manière digitale, mais aussi qui a des traits, un aspect analogique très fort. Après tout, un bit quantique, c'est un spin, et un spin qui peut finalement pointer dans des directions arbitraires. Donc les erreurs vont être produites par des petits champs aléatoires qui bougent la direction du spin, et cette direction bouge de manière continue. Donc en fait, les erreurs se produisent de manière continue pour un qubit, et à ce stade, il n'est pas très clair comment ces algorithmes discrets peuvent corriger les erreurs continues. Et l'exemple dont je vais discuter maintenant va répondre à ces deux points ici. Dans la dernière partie de mon exposé, j'aborderai ce quatrième point qui est aussi très important, c'est qu'il y a plusieurs types d'erreurs pour les qubits. Il n'y a pas simplement les erreurs où le bit s'inverse, il y a les erreurs où c'est la phase qui s'inverse, la phase qui est perturbée. Et donc, il y a beaucoup de degrés de liberté pour les erreurs possibles. Et l'exemple que je vais vous présenter maintenant ne va corriger qu'un seul type d'erreur. On verra par la suite comment corriger toutes les erreurs à la fois. Mais dans l'exemple simple que je vais vous présenter, on va répondre à ces deux questions. Donc, cet exemple simple est ce qu'on appelle le code à 3 qubits, qui va corriger que les erreurs où il y a une inversion du bit. Alors, l'encodage se passe de façon très simple. On part de cet état général du qubit, et par ces deux contrôles noms, on va faire un état intriqué qui ressemble tout à fait à celui de cet état GHZ dont on a parlé dans les deux derniers cours. Ces deux opérations ici créent une fonction d'onde où ces deux états sont pris parmi les 8 états de base de ces 3 qubits. Ces deux états sont superposés avec les mêmes coefficients alpha et bêta que dans la fonction d'onde d'origine. Alors, on va présenter ce qui se passe aussi dans le langage des stabilisateurs. On va faire un peu un aller-retour entre la description du problème avec les fonctions d'onde ordinaires, qui ne vont pas permettre de voir grand-chose, et les stabilisateurs, qui sont un langage qui est équivalent à celui de la fonction d'onde, mais sur lequel on va voir la correction d'erreur de façon beaucoup plus claire. Alors, ces deux états, l'état initial du système, c'est décrit par ce stabilisateur qui contient deux générateurs ici et qui correspondent à la valeur de ces deux bits auxiliaires. Il n'y a pas de générateur qui correspond à cet état ici puisqu'il est complètement général. Donc, ici, ce stabilisateur qui ne contient que deux générateurs pour un espace de Hilbert à 3 qubits, en fait, représente une variété qui est toutes les superpositions entre ces états 0 et 1. C'est quelque chose qu'on avait vu. Plus la variété est grande, plus le stabilisateur est petit. Si on avait voulu spécifier un état bien particulier de ces 3 qubits, il aurait fallu rajouter un autre générateur. Après cette opération d'intrication, ces deux générateurs deviennent ceux-ci. Et vous voyez que c'est des générateurs où il y a deux lettres qui ne sont pas I ici. Et ça c'est comme on l'a vu maintenant plusieurs fois, ceci nous indique qu'il y a intrication, que ces 3 qubits sont intriqués. En fait, ces deux générateurs disent quoi ? Ils disent, si vous mesurez la parité de ces deux qubits, vous allez trouver plus 1. Si vous mesurez la parité de ces deux-là, vous allez trouver plus 1. Donc, ces deux générateurs nous disent qu'il y a deux bits qui sont 1, ici, mais ces bits ne sont pas localisés quelque part, c'est des bits qui décrivent les corrélations entre les qubits. Voilà où est stockée l'information qui, au départ, était dans des qubits individuels. Cette information, maintenant, s'est répartie sur le système. Alors, ce stabilisateur, ici, on peut le modifier. Il est équivalent, si on fait un produit entre les deux termes, ici, on le met sous cette forme, plutôt d'une corrélation entre les deux premiers qubits, ici, et puis les deux seconds. C'était absolument équivalent. Et vous voyez, on retrouve ici la même chose. Vous voyez que ces deux générateurs représentent la même information que ces deux bits classiques E et F que j'avais introduits précédemment. Ils mesurent finalement la parité entre ces deux premiers qubits et la parité entre ces deux derniers qubits. Maintenant, imaginons qu'une erreur se produise. Alors, cette erreur est du type bit flip, on inverse le bit, et ça correspond à l'opération X. Donc, une rotation, en fait, de pi autour de l'axe X. Là, l'hypothèse qu'il n'y a qu'un seul des qubits qui est affecté est très importante. On suppose qu'une seule erreur se produit, c'est-à-dire qu'on a X qui est appliqué ici, ou là, mais pas dans deux endroits à la fois. C'est une hypothèse tout à fait raisonnable si on dispose déjà d'un qubit qui est suffisamment bon. S'il commet suffisamment peu d'erreurs spontanément, la probabilité d'avoir deux erreurs va être beaucoup plus faible qu'une erreur. Alors, dans le langage des quêtes, regardons ce qui va se passer après qu'une de ces erreurs ait été commise. Alors, on a soit l'information d'origine, soit on a eu une inversion sur un des bits. Par exemple, ici, c'est le premier qubit qui s'est inversé. Maintenant, qu'est-ce que ça donne dans ce langage ici des stabilisateurs? Ça donne quelque chose de, dans le fond, beaucoup plus simple. Ça donne quatre possibilités, vous voyez, mais on a exactement les mêmes lettres ici, c'est simplement que les signes devant les lettres ont changé. C'est-à-dire que les corrélations ont changé de signe. Ça, c'est extrêmement... c'est plus sympathique. On voit que corriger les erreurs, c'est de faire en sorte que les signes ici sont tous les deux plus. Ça, c'est l'état d'origine. Si une erreur est commise, eh bien, il y a un changement de signe sur un des générateurs au moins. Ça peut être un ou deux. Et en observant le signe ici, eh bien, on sait quelle erreur est commise. C'est exactement le même tableau que le tableau classique. Bon, alors maintenant, la question c'est est-ce qu'on peut mesurer ces opérateurs ? Et ça, c'est ce qu'on appelle une mesure corrélée, une mesure jointe. On ne veut pas mesurer un qubit, mais on veut mesurer finalement la corrélation entre deux qubits. Il faut pouvoir mesurer cette corrélation entre deux qubits sans mesurer le premier et le second. Il faut mesurer les deux en un coup, en quelque sorte. Si on est capable de faire ce type de mesure, où on n'observe pas un qubit en particulier, puis un autre, et on fait le produit des deux, si on est capable de mesurer simultanément les deux en extrayant cette information et cette information seule, eh bien, on a gagné, finalement. Et... Alors, ce problème, on va l'étendre un peu, ça va nous servir par la suite. Comment, finalement, mesure-t-on ces générateurs qui mesurent les corrélations? Là, je prends une corrélation un peu plus compliquée. Au lieu de prendre 3 qubits, on va prendre 4. Et vous voyez que là, avec 4, on a un cas un peu général où on mesurerait, on établirait une corrélation entre 3 des qubits parmi les 4, les deux premiers et le dernier. Mais ces corrélations seraient un peu plus subtiles que celles-là. On établirait des corrélations avec l'axe Z et l'axe X, par exemple. Tout en laissant un des qubits tranquille. Voilà, c'est un peu le travail, c'est ce travail fondamental qu'il faut être capable de réaliser pour faire la correction des erreurs. Et c'est quelque chose donc que Léo Di Carlo, la semaine dernière, avait présenté dans un circuit. Et là, je vais pas rappeler ce qu'il a présenté, je vais expliquer le principe de ce type de mesure. Pour effectuer ce type de mesure, il faut avoir un bit auxiliaire. Donc, pour dans le séminaire de Léo Di Carlo, c'était l'état d'une cavité. Mais ici, je représente ça comme un qubit auxiliaire. Et ce qubit auxiliaire va se trouver modifié à tour de rôle par des portes contrôle non, ici. Et on va... pour chacune des lettres ici qui n'est pas égale à I, on va effectuer une porte contrôlée qu'on avait introduite la dernière fois. Donc ici, pour mesurer Z, donc là, je m'aperçois que j'ai fait une erreur, j'ai interverti ces deux fils, en fait. Donc... tout va bien. Donc là, on va mesurer Z pour le premier qubit. Finalement, c'est l'information Z ici que l'on prélève par ce point. Et donc, si le bit est à 1, eh bien, on va inverser ce qubit. Si le bit est orienté suivant moins x, on va aussi flipper le qubit ici. Et on fait une mesure suivant z aussi pour le dernier. Vous voyez que par ce circuit, on va faire ce qubit, à la fin de ces trois opérations, va porter cette information ici, zx, iz. Le i ça correspond simplement à l'absence d'un fil ici. En pratique, cette opération peut se faire, on peut l'écrire de manière inversée. On a vu la dernière fois qu'il y avait une réciprocité entre le fil de contrôle et le fil cible. Et j'ai exploité cette réciprocité en simplifiant un peu le circuit ici. On voit que on peut comprendre cette mesure de façon inverse. On peut dire que, une opération dans laquelle ce fil qui est destiné à recevoir le résultat contrôlerait une rotation suivant Z, suivant X et suivant Z, eh bien, effectue cette mesure. Alors, pourquoi ce circuit est plus agréable à présenter, eh bien, vous voyez qu'il va reproduire très exactement cette formule. En fait, cette formule nous donne le câblage du circuit. Dans les livres sur les articles sur l'information quantique, on simplifie en plus cette écriture. Ces fils ici, ces trois fils sont superposés. Et donc, on adopte cette notation ici, où finalement, ce bit ici va contrôler à la fois ces trois portes qui font des rotations de pi, ici autour de z, autour de x et autour de z, en laissant ce troisième qubit tranquille. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que le câblage ici, la façon dont on câble les fils, eh bien, vous voyez, reproduit très exactement ce générateur ici. Simplement, il faut tourner le générateur de 90 degrés, et la lecture du générateur vous dit exactement comment s'effectue le câblage. Et cette opération, ce type d'opération est extrêmement précieuse. Elle permet de mesurer un bit d'erreur sans mesurer directement chaque qubit. On extrait une information du système, mais une information qui porte sur les corrélations et pas sur la valeur des bits individuels. Et on peut se débrouiller pour que cette prise d'information ne touche pas l'état du qubit, ne touche pas du tout aux coefficients alpha et bêta. Pourquoi ? Comment on peut arriver à ce résultat ? Eh bien, c'est très simple. En fait, si vous prenez cette mesure, et si le générateur associé, en l'occurrence ici ZZI, IZZ, commute avec les générateurs du stabilisateur qui décrit l'état, ici là, la commutation est évidente puisque j'ai repris simplement les générateurs de l'état. Je vous rappelle que donc, cet état qu'on cherche à protéger est caractérisé par ces deux générateurs ici. Et là, dans le circuit de contrôle, je vais finalement mesurer ces deux générateurs. Donc là, la commutation est assurée puisque, en fait, c'est les mêmes générateurs. Mais d'une manière générale, ça pourrait être des générateurs qui commuteraient. Donc finalement, ces mesures-là, ces mesures conjointes, elles sont tout à fait autorisées. Elles ne vont pas, puisqu'elles représentent en fait le contenu du stabilisateur de l'état, elles ne vont pas toucher à l'état. Par contre, elles vont détecter si une erreur s'est commise. Si on a une des erreurs qui a été commise, là, qui s'est produite sur un des fils, eh bien, un de ces deux bits ici, qui correspond à la mesure de ces signaux d'erreur ici, eh bien, un de ces deux bits sera passé à 1. Alors, cette boîte M ici correspond à un type de mesure un peu particulière. On mesure l'état de ce fil ici, et puis on va laisser le fil dans l'état 0. Ça, ici, là, il faut que pour ces bits d'erreur, il faut que la mesure soit destructive. Pourquoi ? Parce qu'on veut, on veut recommencer cette opération. Il faut effectuer cette opération continuellement, cette opération de mesure. Donc, à la fin de cette mesure, il faut avoir fait retourner ce bit auxiliaire dans l'état 0. On va voir que cette opération de remise à 0, de destruction du bit après la mesure est absolument fondamentale. Alors là, ici, à ce stade, on dispose du signal qui nous permet de dire si une erreur s'est commise ou non et où. Et en fait, on réinjecte ces deux bits ici qui sont classiques dans le système quantique par l'intermédiaire de ces trois portes qui sont des portes conditionnelles qui vont effectuer une opération de bit flip, une rotation de pi, mais conditionnée sur la valeur de ce produit ici. Alors vous allez me dire, comment on choisit finalement ces combinaisons, mais vous voyez, la recette est extrêmement simple. En fait, F bar, c'est non F, et savoir si on met une barre ou non, c'est très simple. Si, vous voyez, sur ce canal F ici, il y a un I. Un I, c'est une barre, et donc vous mettez une I, c'est une barre verticale. Ici, vous mettez une barre horizontale sur le F. Vous voyez, ça marche. Ici, vous n'avez pas de barre parce que vous n'avez pas de I. Ici, vous avez un I et vous mettez une barre sur le. C'est un peu plus clair ici, comme ceci. Vous voyez, ici, vous ne faites rien, mais en fait, vous faites l'opération I, c'est-à-dire qui n'est pas triviale. Quantiquement, I, ça veut dire que vous maintenez le qubit dans son état tel quel. Ce n'est pas si facile. Il faut se battre contre T1. Donc, ici, vous faites I, et donc, vous décorez le F, ici, de cette barre. Vous voyez que, ici, dans le fond, tout ce que vous faites, c'est vous faites une mesure du système, une mesure que vous avez bien choisie, n'affecte pas les coefficients alpha et bêta. Vous avez bien choisi cette mesure, mais l'espace est assez vaste pour être capable de trouver une telle mesure. Et le résultat de la mesure, vous le réinjectez avec un signe moins, une espèce de signe moins. C'est un signe moins pour les qubits, là. C'est des rotations. C'est plus subtil qu'une simple soustraction, mais le principe est absolument le même. Vous voyez, on applique les bonnes vieilles recettes de l'électronique de base où vous avez un ampli opérationnel et pour maintenir une consigne, ici, vous réinjectez un signal à l'entrée avec le signe moins. On fait exactement la même chose. C'est dans un espace plus vaste, avec plus de dimensions et des variables qui ne sont pas des variables habituelles, qui sont des spins. Mais finalement, c'est très semblable. Alors, arrivé à ce stade du raisonnement, il y a quand même quatre questions à débattre. Oui ? Ah oui, alors... Oui, alors c'est très important. Pourquoi c'est possible? Alors, en fait, le choix de cet état, finalement, pourquoi on a choisi cet état intriqué pour coder le qubit? Pourquoi ce stabilisateur? Ben, en fait, il a été précisément choisi, cet état, pour que ces opérations d'erreur, ici, ne conduisent qu'à un changement de signe. C'est ça l'astuce. Hein? On connaissait le type d'erreur et on a choisi l'état, donc on a choisi ce type de stabilisateur, pour que ces X ici ne fassent rien d'autre qu'un changement de signe. Pardon ? Ah oui. Non, mais j'ai bien dit que pour l'instant, j'allais me concentrer sur un cas simplifié. Hein, et effectivement, c'est vrai. Là, je ne corrige pour l'instant que ces erreurs-là. Je vais, dans la deuxième partie de mon exposé, je vais parler de la correction tout à fait générale des erreurs, qui est beaucoup plus subtile. Mais là, dans cette première partie, je voulais vous faire sentir comment... pour un type d'erreur bien particulier, on peut envisager un système de mesure et de feedback qui corrige ces erreurs-là sans effectivement passer par des opérations qui allaient détruire l'état. Mais effectivement, je suis d'accord, pour l'instant, j'ai quand même spécialisé le problème et je ne pourrais pas faire d'informatique quantique si je n'avais pas un moyen de corriger toutes les erreurs. Donc, on aborde un peu les questions une par une. Hein. C'est bon. Alors, justement, j'avais une liste de questions qui contenait, en fait, celles que tu poses. Le premier point, c'est les erreurs sont continues. Et là, l'algorithme que je viens de vous exposer, il est discret. À intervalles réguliers, on fait une mesure et on réinjecte le résultat de la mesure dans le système. Comment ça corrige les erreurs partielles ? Eh bien, c'est là qu'une remarque tout à fait merveilleuse intervient. C'est supposons que l'erreur n'ait pas du tout été un flip complet d'un bit, mais simplement une petite erreur d'angle. Supposez qu'un des qubits est un peu dévié de l'axe Z. Cet algorithme de correction d'erreur ici, qu'est-ce qu'il fait? Quand je fais mesurer ces générateurs ici, quand j'inspecte le stabilisateur du code, eh bien, je force le système à déclarer s'il a fait une erreur ou non. Cette mesure, en fait, force le système à dire ou bien il n'a pas fait d'erreur du tout, donc cette mesure peut avoir un effet bénéfique, ou cette mesure, elle a un effet d'amplification. Ce petit angle, tout d'un coup, de quelques degrés, peut se transformer de temps en temps un angle de 180 degrés. On force le système à se projeter dans un état avec une erreur maximale ou pas d'erreur du tout. C'est extrêmement puissant quand on y pense. Hein. C'est là où c'est extrêmement intéressant de réfléchir à ceci, parce qu'on voit bien qu'en mécanique quantique, il y a une tension entre le discret et le continu. On a un peu les deux choses présentes à la fois, et ces algorithmes vraiment mettent cette tension en lumière. Donc, la réponse à cette remarque, c'est que oui, cette correction discrète des erreurs corrige aussi les erreurs continues. Le circuit que je vous ai présenté, c'est un circuit donc, de contre-réaction, et cette contre-réaction, ici, fait intervenir une mesure et une réinjection de la mesure dans des portes finalement contrôlées classiquement. Donc, cette boucle de contre-réaction, elle va passer par l'extérieur du circuit. On peut effectuer les mêmes opérations avec des portes interne au circuit. Il n'y a pas besoin en fait d'effectuer du tout cette mesure vraiment au sens de la prélévation du résultat et du traitement par un ordinateur classique extérieur, un circuit, un processeur. On peut effectuer ces opérations directement avec des portes quantiques. Et ça, c'est extrêmement passionnant parce que si on doit faire cette opération, cette boucle à très haute vitesse, eh bien, il est évidemment souhaitable de ne pas passer par l'extérieur, ce qui va ralentir les opérations. Mais le prix à payer, c'est que les portes de rétroaction ici vont être plus compliquées. Il y a plus de hardware. Donc, il y a un compromis un peu délicat à opérer. Et les différentes équipes dans le monde qui essayent d'implémenter ces algorithmes se posent ce genre de questions. Dois-je compliquer le circuit, faire plus de portes quantiques et que je pourrais faire plus rapidement, ou doit-on utiliser moins de pièces et puis passer par l'extérieur? Ça, c'est un problème qui n'est pas vraiment... Cette décision ici, elle n'est pas encore vraiment faite. Une autre question que cet algorithme nous pose, c'est cette correction des erreurs, c'est finalement extraire continuellement l'entropie du système. On extrait les erreurs, accroissent l'entropie du qubit. Finalement, on réalise là cette correction des erreurs. C'est une petite machine quantique qui élimine l'entropie. Où est-ce qu'elle va? Où est-ce qu'on extrait de l'entropie du qubit et où est-ce qu'on la met? On la met dans cette opération ici de mesure destructive. C'est quand on effectue cette mesure du qubit, ici, qu'on remet le qubit dans l'état fondamental, c'est la relaxation de ce qubit, ici, qui finalement met de l'entropie ailleurs. En fait, on met de l'entropie dans l'environnement qui effectue le reset, ici, de la remise à zéro du qubit. Donc, ce processus de correction d'erreur, on peut le voir comme une petite machine thermodynamique. C'est une espèce de démon de Maxwell qu'on a réalisé pour extraire l'entropie du système et le mettre ailleurs, hein, dans un endroit où, dans une poubelle, si vous voulez. Une autre question très, très vaste et très intéressante, c'est cette correction des erreurs quantiques. En fait, je la présente, c'est utile de la présenter comme un processus de rétroaction, de feedback, mais c'est un feedback quand même d'une nature très particulière parce que dans les processus de contre-réaction habituels, en général, on essaye de stabiliser un état. Par exemple, la régulation de température chez vous, on va essayer d'atteindre une certaine température pour l'appartement ou la maison. On a un paramètre qui doit atteindre un point de consigne. La correction quantique d'erreur, la consigne n'est pas un point, c'est une variété continue. Donc, il faut quand même que le système de mesure ait des symétries bien particulières pour préserver cette variété. Ou une autre façon de présenter les choses, c'est que les erreurs ne peuvent pas être tout à fait générales. Les erreurs doivent avoir une certaine symétrie qu'on doit exploiter pour préserver cette variété d'états. Alors, la symétrie qu'exploitent tous ces protocoles de correction d'erreurs, elle est toujours sous-jacente. Elle doit être respectée, sinon ces processus de correction d'erreurs ne fonctionnent pas. Cette symétrie, c'est que les erreurs se produisent de manière indépendante sur les différents qubits. C'est qu'il n'y a pas de force perverse dans la nature qui changerait de manière simultanée l'état de deux qubits distants ou décorrélés. Alors ça, c'est l'hypothèse absolument fondamentale. Et une façon de voir cette physique de la correction d'erreur, c'est quand même une façon de voir une exploration des forces dans la nature. Parce que si jamais il y a des forces qu'on ne connaît pas, qui ont un caractère non local, qui sont capables d'agir simultanément sur des objets à distance, eh bien ces algorithmes de correction quantique d'erreur ne marcheront pas. Et donc, il peut y avoir des limites. Mais enfin, pour l'instant, on n'a aucune indication que ces forces existent. Et donc, bon, jusqu'à preuve du contraire, cette correction quantique d'erreur doit fonctionner. Alors, je vais aborder la question posée précédemment, c'est comment, finalement, on va corriger toutes les erreurs et qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait plusieurs types d'erreurs. Déjà, au niveau d'un seul bit classique, il y a déjà des complications. Vous allez sentir que quand vous faites une erreur sur un bit classique, en fait, les erreurs qui affectent le 1 peuvent être différentes des erreurs qui affectent le 0. Par exemple, votre 1 peut être fragile et votre 0 très robuste. C'est ce qui se passe, par exemple, si vous avez codé de l'information avec un puits asymétrique. Vous avez tendance à détruire le 1, mais pas le 0. Ce type d'erreur n'est pas une erreur où vous inversez le bit. Cette inversion dépend de l'état. Ça, c'est un type d'erreur plus difficile à corriger. Et ce type de complication se produit, disons, cette complication des choses est encore plus difficile pour le bit quantique. Voilà des exemples d'erreurs qui ne sont pas contenues, qui ne correspondent pas simplement à une inversion du qubit, une inversion du 0 et du 1. C'est ce qu'on appelle ici le flip de la phase. Si votre qubit ici est lié à un bit que vous ne contrôlez pas, qui fait partie de ce qui s'appelle l'environnement, qui est tous les qubits de la nature que vous ne contrôlez pas, eh bien, cette opération, où pourtant vous avez l'impression que votre bit ici ne fait que contrôler un bit extérieur, en fait, comme vous le savez, il y a cette action en retour de l'environnement sur le qubit. En fait, ça correspond à une porte Z appliquée au qubit. C'est-à-dire, c'est un flip, ça, c'est ces fameux flips de phase dont je parlais au début. Donc, il faut corriger ce type d'erreur. Et d'une manière générale, il y a plein d'autres types d'erreurs qu'il faut corriger. Justement, les erreurs de relaxation. Donc, vous pouvez avoir une interaction de ce type-là entre votre qubit et un bit de l'environnement. On avait vu cette opération. C'est la meilleure copie que vous pouvez faire de votre état quantique. C'est la copie destructrice. Vous pouvez le voir ça aussi comme le processus de relaxation. L'émission spontanée d'un atome est dans cette classe de processus où vous remettez finalement à zéro votre qubit. Vous voyez, ça c'est une opération qui n'est pas un simple flip. Et vous pouvez voir cette opération comme en fait une combinaison d'une porte Z et d'une porte X ici. Donc d'une manière générale, toutes les processus d'erreur, vous pouvez les voir comme une succession qui peut être très compliquée de portes Z et de portes X. Vous allez me dire, et les portes Y ? Oui, les portes Y, en fait, ce ne sont que des combinaisons de portes Z et X. Donc, en fait, la conclusion de tout ça, c'est que, en fait, il peut y avoir, si vous êtes capable de corriger continuellement les erreurs suivant Z et suivant X, en fait, vous pouvez corriger tous les types d'erreurs. Ça, c'est un théorème extrêmement puissant que je ne démontre pas ici, bien qu'il y ait une très, très grande variété d'erreurs possibles. Cette variété, vous comprenez, c'est la succession, différentes successions de ces opérations Z et X ici. En fait, si vous êtes capable de corriger chacune de ces opérations, vous corrigez le qubit. Pour les physiciens habitués à la résonance magnétique nucléaire, cette variété de processus d'erreur est bien connue, puisqu'en RMN, il y a ce qu'on appelle les processus de relaxation T1, où l'aimantation du spin que vous avez inversé ici, vous avez préparé un spin vers le bas, il va relaxer dans sa position d'équilibre thermodynamique par ces processus dits T1 qui correspondent à des champs aléatoires qui sont distribués dans le plan équatorial de la sphère de Bloch. Ça, c'est le T1. Et il y a ce qu'on appelle les processus TEFI, de relaxation transverse à elles, qui correspondent à des champs aléatoires qui sont le long de Z. Ça, c'est les processus de déphasage pur qui font décroître l'aimantation transverse. Là, c'est l'aimantation longitudinale qui relaxe, et là, c'est l'aimantation transverse. Et le temps de décohérence, le temps total de décohérence, est donné par une combinaison de ces deux temps, T1 et Tφ. Mais par exemple, en physique atomique, on peut avoir d'autres combinaisons d'erreurs. Ces considérations, c'est juste pour vous montrer que l'espace des erreurs est assez vaste, mais miraculeusement, on peut dire, simplement en corrigeant les inversions de bits, les bit flips ou les face flips ou les combinaisons des deux, on peut corriger toute cette variété d'erreurs. Et ça a été compris donc dès le départ par Peter Shor et Andrew Steen. J'ai choisi un exemple. Il y a de nombreux exemples, mais j'en ai choisi un, celui qui me paraît le plus pratique. En fait, c'est ce code à 7 qubits inventé par Andrew Steen qui permet, lui, de corriger toutes les erreurs. On va voir sur cet exemple en particulier comment corriger à la fois les erreurs suivant X et suivant Z. Ce code à 7 qubits, en fait, il ne fait que reprendre très simplement le code correcteur d'erreur qu'on a vu au départ, qui corrigeait 7 bits classiques pour en laisser finalement que 4 de libre. Ici, comme il y a plus d'erreurs à corriger, on ne va pas obtenir 4 qubits de libre à la fin, on n'en obtient qu'un. C'est assez simple à comprendre. Il y a beaucoup plus d'erreurs, de directions d'erreurs possibles à faire, auxquelles est soumis le système quantiquement. Et donc, cet algorithme de correcteur d'erreurs ne laisse à la fin qu'un seul qubit de libre. Donc, on reprend notre hexagone, ici. Et vous voyez, maintenant, c'est des qubits qui sont au sommet de l'hexagone et au centre. Et on va maintenant avoir non pas 3 bits d'erreur, mais on va en avoir 6, en fait. Il faut plus de bits d'erreur puisqu'il y a plus d'erreurs à corriger. Je vous rappelle la matrice des erreurs qu'on avait vues pour 3. Je rajoute 3 autres bits d'erreur ici. Alors, les 3 premiers bits d'erreur vont mesurer les corrélations Z, c'est-à-dire qu'elles vont effectuer une mesure de la parité des bits quantiques suivant Z. Ces 3 erreurs supplémentaires, si ces 3 bits d'erreur supplémentaires, elles mesurent exactement la même chose, mais suivant X. C'est un petit peu normal, il faut qu'on corrige des erreurs à la fois suivant Z et suivant X. Alors là, c'est très simple, on a simplement dupliqué les mesures qu'on faisait pour le bit classique. Le bit classique, on peut le voir comme un bit quantique qui ne pourrait évoluer que suivant Z. Le bit quantique peut évoluer suivant d'autres axes, en particulier l'axe X. Eh bien, on reproduit exactement la même chose pour X. Une façon de voir le stabilisateur choisi par Steen, c'est de le voir comme ceci. Un stabilisateur est composé de générateurs. Ces générateurs affectent certains qubits. Eh bien, vous voyez, le premier générateur affecte cette face ici. Cet autre générateur affecte cette autre face. Là, on affecte la dernière face. Cette première ligne, en fait, contient des générateurs qui mesure le produit de 4 opérateurs sur une face de ce cube. Et la deuxième ligne, ici, mesure les produits d'opérateurs, mais suivant X. Vous voyez, il y a une symétrie très jolie, très agréable, hein, finalement. Vous mesurez, en fait, chacune des faces apparentes de ce cube. Il y a 3 faces apparentes. Vous mesurez ces faces une fois suivant Z, et puis suivant x. Voilà, c'est ça l'idée. Est-ce que il faut contempler cette image un certain temps pour apercevoir la symétrie? Donc, vous voyez, vous pouvez voir le générateur sous cette forme, mais ce n'est pas très parlant parce que vous ne voyez pas dans cette liste ici qu'est-ce qui est connecté à quoi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement... je redonne cette liste ici de générateurs, mais chaque ligne ici, plutôt que d'apparaître sous forme de symboles les uns à la suite des autres, ici, cette liste de générateurs apparaît comme un petit schéma du circuit, mais avec les lettres Z placées sur les qubits qu'on est en train de mesurer. Voilà. Donc, ça, c'est ça. Comme vous le savez, un stabilisateur représente un état, plus exactement une variété d'états ici. Et quelle est cette variété d'état? Alors, je vous le montre, vous allez voir pourquoi. Là, j'espère vous convaincre pourquoi les stabilisateurs rendent service, parce que voilà les états, si on écrivait les fonctions d'onde. Voilà la première fonction d'onde. Ce n'est pas du tout clair, même dans cette représentation, de savoir ce qu'elle fait. Et la deuxième fonction d'onde, c'est celle-ci. Donc, en fait, l'encodage du bit se fait en prenant une superposition quelconque de ces deux fonctions d'onde. Sur ces fonctions d'onde, on ne lit pas du tout ce qu'elles font. Tout ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'elles sont bâties à partir d'un état qu'on peut comprendre. C'est l'état où il n'y a que des zéros, ici, et l'état où la fonction d'onde où il n'y a que des 1. Ça, si on avait dans la fonction d'onde que c'est 7, 0 et que c'est 7, 1, on aurait une généralisation de l'état GHZ, ça serait relativement facile à comprendre, mais pourquoi on adjoint à cet état tous ces autres, les autres 7 états, c'est pas très clair. Ces états, ces deux états, sont les états propres de ce stabilisateur ici, et il donne à ce stabilisateur chacun de ces générateurs, ici, pour les deux états, va avoir une valeur plus 1. Il y aura, donc, quand je vais effectuer cette mesure, je dois trouver plus 1, etc. Et donc, chaque erreur, ici, va correspondre au fait qu'au lieu de plus 1 pour le résultat de cette mesure, eh bien, je vais trouver moins 1. Donc, ça nous permet de voir à quoi correspond le circuit. Donc, le circuit correspond à la mesure de 6 opérateurs de parité. Donc, mesure de la parité sur une première face de ce cube, autre mesure sur une autre face, troisième face ici. Et puis, on recommence ces 3 mesures de parité sur les mêmes faces, mais en choisissant la direction X. Vous voyez, donc, il y a en tout, il y a 7 qubits, mais il y a 6 bits d'erreur. On mesure 6 bits d'erreur. 6 bits d'erreur, c'est beaucoup. 2 à la puissance 6, c'est 64. On est capable de détecter 64 erreurs possibles ici. En fait, c'est plus que nécessaire, puisqu'il y a 7 qubits. Il peut y avoir une seule erreur par qubit. Mais évidemment, comme il y a 3 types d'erreurs, ça fait 21 erreurs en tout, plus le fait qu'on pourrait ne pas avoir fait d'erreur du tout, ça fait 22 types d'erreurs possibles. Or, là, on en détecte 64. Donc, tout fonctionne très bien. On a même une certaine réserve. L'algorithme de ce circuit de Steen n'est pas le circuit optimum. En fait, le minimum, c'est 5 qubits. Mais je n'ai pas choisi de vous présenter le circuit à 5 qubits parce qu'il est encore plus opaque. Et en plus, il y a un certain nombre de raisons pratiques qui s'opposent à sa réalisation. En tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que le feedback ici, la rétroaction, va s'opérer exactement comme dans le cas à 3 qubits. On va prendre, pour le cas à 3 qubits, on avait 2 bits d'erreur qu'on réinjectait dans le système. Là, on a 6 bits d'erreur qu'on réinjecte aussi en effectuant contre ces opérations de flip suivant X et suivant Z. Mais vous voyez maintenant, l'exposant correspond en fait, il y a trois bits ici qui servent de contrôle pour chacune de ces opérations de X. Et ça, ces opérations X corrigent les erreurs suivant X. Et ces opérations Z, elles corrigent les erreurs suivant Z. Donc c'est quand même assez simple. Dans cette colonne, corrige toutes les erreurs qui se sont effectuées suivant X. Celle-là corrige toutes les erreurs qui se sont effectuées suivant Z. Et si une erreur s'était faite suivant Y, à ce moment-là, elle nécessiterait à la fois l'activation d'une boîte comme ceci et d'une boîte comme cela sur le même fil. Et on trouve exactement la même règle que précédemment. Vous voyez, on prend ces bits de contrôle ici, on prend leur opposé, quel bit intervient où. En fait, vous voyez, on retrouve exactement la même loi. Ici, par exemple, j'ai une barre sur E2, mais cette barre correspond à l'absence ici de mesure sur ce fil ici. Ici, vous avez une barre sur E5 et vous retrouvez bien l'opération I. Donc encore, cette règle très simple du I qui est verticale, une barre verticale qui correspond ici dans cette réinjection de l'information, une barre horizontale, est vérifiée. C'est une règle tout à fait générale. Elle correspond simplement aux réinjections de la mesure avec un signe moins. Donc ce circuit de Steen est dans le fond assez logique. C'est tout simplement une généralisation de la correction, de l'algorithme de correction d'erreur basée sur 3 qubits dans un espace plus vaste qui permet de corriger à la fois X et les erreurs suivant X et Z. Mais vous voyez, c'est pas trop compliqué. En fait, on concatène tout simplement. Le circuit n'est qu'une réunion de la correction d'erreurs suivant X et de la correction d'erreurs suivant Z. Voilà. Donc, pourquoi ça marche ? Donc, je l'ai expliqué. Vous avez finalement plus de syndromes d'erreurs que nécessaire. Vous avez un petit surplus qui est très pratique. Daniel Gottesman, en fait, par un tour de force mathématique, a montré qu'il y avait une solution plus simple, à 5 qubits. Mais actuellement, ce code correcteur d'erreur, qui est extrêmement astucieux, n'est pas vraiment très favorisé parce que, en fait, si on voulait faire des opérations sur ce qubit logique qu'on a réalisé, en fait, dans ce code de Gottesman, il faut décoder le qubit avant de faire l'opération. Il y a un nombre incroyable d'opérations supplémentaires à effectuer toutes les fois où on veut faire une opération sur le qubit logique. Sur le code de Steen, on a 2 qubits de plus, mais on s'y retrouve largement parce que toutes les fois où on va faire une opération sur le qubit, que ce soit une opération à une logique à 1 qubit ou à 2, eh bien, il suffit en gros, très simplement, de faire cette opération sur chacun des qubits, de ces 7 qubits en parallèle. Donc, il n'y a aucune complication n'est introduite par cette correction d'erreur, et c'est ça qui la rend extrêmement intéressante. Donc, Benoît Dousseau nous avait parlé des codes toriques. Il y a de très très belles idées qui, au prix d'un nombre de qubits encore plus grand, permettent des fonctionnements encore plus robustes et encore plus intéressants à utiliser, mais je ne parlerai pas de ces merveilles théoriques. Ce que je voudrais introduire, c'est le cours de l'an prochain. Vous voyez que cette correction d'erreur, c'est un processus de feedback. Il est quand même assez lourd, puisqu'il y a un très grand nombre de mesures qui sont effectuées et un très grand nombre de portes logiques à effectuer dans la correction. Il y a un sentiment à l'heure actuelle qu'on peut en fait court-circuiter une grande partie de ces opérations qui sont discrètes si on les remplace par des opérations continues. Donc, en fait, avant peut-être de se poser la question de la correction quantique d'erreurs par ces algorithmes discrets, qui ont le mérite d'être quand même relativement clairs théoriquement, et il est très facile de pouvoir prouver théoriquement qu'ils fonctionnent. Donc il faut peut-être se poser la question du feedback en général, de la rétroaction de ces processus de mesure sur le système lui-même, et ça va être le sujet du cours de l'an prochain. Et un article qui motive un peu cette direction est donné ici, où dans la première fois, ce lien entre correction quantique d'erreur et feedback et rétroaction en mécanique quantique, la première fois, cette lien a été fait. Voilà, voilà le cours de l'an prochain. Merci pour votre attention et merci par avance pour vos questions.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.